Monte Cristo fit un signe de tête qui indiquait toute son adhésion. « Mais ce n'est pas tout, » continua Danglars. « Il a ouvert à son fils un crédit chez moi. Combien, sans indiscrétion, donne-t-il au jeune homme ? 5 000 francs par mois. 60 000 francs par an. Je m'en doutais bien, » dit Monte Cristo en haussant les épaules. « Ce sont des pleutres que les Cavalcanti. Que veut-il qu'un jeune homme fasse avec 5 000 francs par mois ? Mais vous comprenez que si le jeune homme a besoin de quelques 1 000 francs de plus, n'en faites rien, le père vous les laisserait pour votre compte. Vous ne connaissez pas tous les millionnaires ultramontains, ce sont de véritables harpagons. Et par qui lui est ouvert ce crédit ? Oh, par la maison Fenzi, une des meilleures de Florence. Je ne veux pas dire que vous perdrez, tant s'en faut, mais tenez-vous cependant dans les termes de la lettre. Vous n'auriez donc pas confiance dans ce Cavalcanti ? Moi, je lui donnerais 10 000 000 sur sa signature. Cela rentre dans les fortunes du second ordre dont je vous parlais tout à l'heure, mon cher monsieur Danglars. Et avec cela, comme il est simple, je l'aurais pris pour un major, rien de plus. Et vous lui eussiez fait honneur, car vous avez raison, il ne paye pas de mine. Quand je l'ai vu pour la première fois, il m'a fait l'effet d'un vieux lieutenant moisi sous la contre-épaulette. Mais tous les Italiens sont comme cela. Ils ressemblent à de vieux juifs quand ils n'éblouissent pas comme des mages d'Orient. « Le jeune homme est mieux, » dit Danglars. « Oui, un peu timide peut-être, mais en somme, il m'a paru convenable. J'en étais inquiet. Pourquoi cela ? Parce que vous l'avez vu chez moi à peu près à son entrée dans le monde, à ce que l'on m'a dit du moins. Il a voyagé avec un précepteur très sévère et n'était jamais venu à Paris. Tous ces Italiens de qualité ont l'habitude de se marier entre eux, n'est-ce pas ? Demanda négligemment Danglars. Ils aiment à associer leur fortune. D'habitude, ils font ainsi, c'est vrai. Mais Cavalcanti est un original qui ne fait rien comme les autres. On ne m'ôtera pas de l'idée qu'il envoie son fils en France pour qu'il y trouve une femme. Vous croyez ? J'en suis sûr. Et vous avez entendu parler de sa fortune ? Il n'est question que de cela. Seulement, les uns lui accordent des millions, les autres prétendent qu'il ne possède pas un pôle. Et votre opinion, à vous ? Il ne faudra pas vous fonder dessus. Elle est toute personnelle. Mais enfin, mon opinion à moi est que tous ces vieux podestas, tous ces anciens condottieri, car ces Cavalcanti ont commandé des armées, ont gouverné des provinces, mon opinion, dis-je, est qu'ils ont enterré des millions dans des coins que leurs aînés seuls connaissent et font connaître à leurs aînés de génération en génération. Et la preuve, c'est qu'ils sont tous jaunes et secs comme leurs florins du temps de la République, dont ils conservent un reflet à force de les regarder. « Parfait, » dit Danglars. « Et c'est d'autant plus vrai qu'on ne leur connaît pas un pouce de terre à tous ces gens-là. Fort peu, du moins. Moi, je sais bien que je ne connais à Cavalcanti que son palais de Luc. « Ah, il a un palais, » dit en riant Danglars. « C'est déjà quelque chose. » Oui, et encore le loue-t-il au ministre des Finances, tandis qu'il habite, lui, dans une maisonnette. Bon, je vous l'ai déjà dit, je crois le bonhomme serré. Allons, allons, vous ne le flattez pas. Bon, écoutez, je le connais à peine, je crois l'avoir vu 3 fois dans ma vie. Ce que j'en sais, c'est par l'abbé Busoni, et par lui-même. Il me parlait ce matin de ses projets sur son fils, et me laissait entrevoir que, là de voir dormir des fonds considérables en Italie, qui est un pays mort, il voudrait trouver un moyen, soit en France, soit en Angleterre, de faire fructifier ses millions. Mais remarquez bien toujours que, quoique j'ai la plus grande confiance dans l'abbé Busoni personnellement, moi je ne réponds de rien. N'importe, merci du client que vous m'avez envoyé. C'est un fort beau nom à inscrire sur mes registres. Et mon caissier, à qui j'ai expliqué ce que c'était que les Cavalcanti, en est tout fier. À propos, et ceci est un simple détail de touriste, « quand ces gens-là marient leur fils, leur donnent-ils des dots ?»« Ah, mon Dieu, c'est selon. J'ai connu un prince italien, riche comme une mine d'or, un des premiers noms de Toscane, qui, lorsque ses fils se mariaient à sa guise, leur donnait des millions, et, quand ils se mariaient malgré lui, se contentait de leur faire une rente de 30 écus par mois. Admettons qu'Andrea se marie selon les vues de son père, il lui donnera peut-être 1, 2, 3 millions. Si c'était avec la fille d'un banquier, par exemple, peut-être prendrait-il un intérêt dans la maison du beau-père de son fils. Puis, supposez à côté de cela que sa bru lui déplaise, bonsoir, le père Cavalcanti met la main sur la clé de son coffre-fort, donne un double tour à la serrure Et voilà maître Andrea obligé de vivre comme un fils de famille parisien en biseautant des cartes ou en pipant des dés. Ce garçon-là trouvera une princesse bavaroise ou péruvienne. Il voudra une couronne fermée, un Eldorado traversé par le Potose. Non, tous ces grands seigneurs de l'autre côté des monts épousent fréquemment de simples mortels. Ils sont comme Jupiter, ils aiment à croiser les races. Ah ça, mais est-ce que vous voulez marier Andrea, mon cher monsieur Danglars, que vous me faites toutes ces questions-là? Ma foi, dit Danglars, cela ne me paraîtrait pas une mauvaise spéculation. Et je suis un spéculateur, moi. Ce n'est pas avec mademoiselle Danglars, je présume. Vous ne voudriez pas faire égorger ce pauvre Andrea par Albert. Albert, dit Danglars en haussant les épaules. Ah, bien oui, il se soucie pas mal de cela. Mais il est fiancé avec votre fille, je crois. C'est-à-dire que monsieur de Morcerf et moi, nous avons quelquefois causé de mariage, mais madame de Morcerf et Albert, n'allez-vous pas me dire que celui-ci n'est pas un bon parti? Mademoiselle Danglars vaut bien monsieur de Morcerf, ce me semble. La dot de mademoiselle Danglars sera belle, en effet, et je n'en doute pas, surtout si le télégraphe ne fait plus de nouvelles folies. Oh, ce n'est pas seulement la dot. Mais dites-moi donc à propos... Eh bien, pourquoi donc n'avez-vous pas invité Morcerf et sa famille à votre dîner? Je l'avais fait aussi. Mais il a objecté un voyage à Dieppe avec madame de Morcerf, à qui on a recommandé l'air de la mer. Oui, oui, dit Danglars en riant. Il doit lui être bon. Pourquoi cela? Parce que c'est l'air qu'elle a respiré dans sa jeunesse. Monte Cristo laissa passer l'épigramme sans paraître y faire attention. Mais enfin, dit le comte, si Albert n'est point aussi riche que mademoiselle Danglars, vous ne pouvez nier qu'il porte un beau nom. Soit, mais j'aime autant le mien, dit Danglars. Certainement, votre nom est populaire, et il a orné le titre dont on a cru l'orner. Mais vous êtes un homme trop intelligent pour n'avoir point compris que, selon certains préjugés trop puissamment enracinés pour qu'on les extirpe, noblesse de 5 siècles vaut mieux que noblesse de 20 ans. Et voilà justement pourquoi, dit Danglars avec un sourire qu'il essayait de rendre sardonique, voilà pourquoi je préférerais M. Andrea Cavalcanti à M. Albert de Morcerf. Mais cependant, dit Monte Cristo, je suppose que les Morcerf ne le cèdent pas au Cavalcanti. Les Morcerf? Tenez, mon cher comte, reprit Danglars, vous êtes un galant homme, n'est-ce pas? Je le crois. Et de plus, connaisseur en blason. Un peu? Eh bien, regardez la couleur du mien. Elle est plus solide que celle du blason de Morcerf. Pourquoi cela? Parce que moi, si je ne suis pas baron de naissance, je m'appelle Danglars, au moins. Après, tandis que lui ne s'appelle pas Morcerf. Comment il ne s'appelle pas Morcerf? Pas le moins du monde. Allons donc. Moi, quelqu'un m'a fait baron, de sorte que je le suis. Lui s'est fait comte tout seul, de sorte qu'il ne l'est pas. Impossible. Écoutez, mon cher comte, continua Danglars, monsieur de Morcerf est mon ami, ou plutôt ma connaissance, depuis 30 ans. Moi, vous savez que je fais bon marché de mes armoiries, attendu que je n'ai jamais oublié d'où je suis parti. C'est la preuve d'une grande humilité ou d'un grand orgueil, dit Monte Cristo. Eh bien, quand j'étais petit commis, moi, Morcerf était simple pêcheur. Et alors, on l'appelait Fernand. Tout court, Fernand Mondego. Vous en êtes sûr? Pardieu, il m'a vendu assez de poissons pour que je le connaisse. Alors pourquoi lui donniez-vous votre fille? Parce que Fernand et Danglars étant deux parvenus, tous deux anoblis, tous deux enrichis, se valent au fond. Sauf certaines choses cependant qu'on a dites de lui et qu'on n'a jamais dites de moi. Quoi donc? Rien. Ah oui, je comprends. Ce que vous me dites là me rafraîchit la mémoire à propos du nom de Fernand Mondego. J'ai entendu prononcer ce nom-là en Grèce. À propos de l'affaire d'Ali Pacha. Justement. Voilà le mystère, reprit Danglars. Et j'avoue que j'eusse donné bien des choses pour le découvrir. Ce n'était pas difficile, si vous en aviez eu grande envie. Comment cela? Sans doute, vous avez bien quelques correspondants en Grèce. Pardieu. À Janina? J'en ai partout. Eh bien, écrivez à votre correspondant de Janina. Et demandez-lui quel rôle a joué dans la catastrophe d'Ali Teblin un Français nommé Fernand. Vous avez raison, s'écria Danglars en se levant vivement. J'écrirai aujourd'hui même. Faites. Je vais le faire. Et si vous avez quelques nouvelles bien scandaleuses, je vous la communiquerai. Vous me ferez plaisir. Danglars s'élança hors de l'appartement et ne fit qu'un bond jusqu'à sa voiture.